l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans notre LEM mensuel en partenariat avec l'IFREMER. Donc, on plonge au fond, pas toujours près de la surface, même si les microalgues de l'océan ont souvent besoin de lumière. Il en existe beaucoup. Certaines vivent un peu plus en profondeur. Notre invité étudie plutôt celle-ci. Il les suit à la trace, car, paraît-il, elles prolifèrent et se répandent en Atlantique, en Méditerranée. Surtout, les deux terrains de jeu, en tout cas, de notre invité. Cette expansion, l'efflorescence algale, comme on dit, est parfois un problème, notamment quand les microalgues sont toxiques, notamment pour la santé humaine, si elles contaminent d'autres espèces. C'est aussi un problème pour l'équilibre écologique des océans. Or, il est aussi question de température dans cette prolifération, en tout cas, c'est l'hypothèse. Ah, le réchauffement, encore lui, celui du climat, vous savez. Peut-on lire le réchauffement de la planète, enfin de l'océan en tout cas, dans la prolifération des microalgues? Peut-on prévoir les blooms, ces explosions de microalgues en fonction des évolutions du climat? Ce sont les questions que se pose Kevin Drouet, qui a terminé sa thèse au Dinecopelagos de l'IFREMER à Plouzané, qui fait partie du groupe de recherche Phycotox. Donc désormais docteur, il vient aussi de terminer 2 mois au laboratoire d'océanographie de Villefranche. Bonjour Kevin Drouet.
Bonjour.
Bon, j'ai tout dit ou presque.
C'est ça, c'est ça.
On peut dire spécialiste des microalgues, enfin de certaines microalgues.
Oui, de certaines microalgues, pas de toutes, mais d'une en particulier.
Alors les microalgues justement, est-ce qu'on pourrait d'abord faire un point sur ce que c'est? Parce que c'est tellement vaste quand on creuse.
Donc c'est assez vaste en fait. Les microalgues, ce sont des organismes en fait microscopiques, donc comme leur nom l'indique. Donc au niveau taille, ça varie entre un millième de millimètre et ça peut aller jusqu'au millimètre. Et en fait, donc ce sont majoritairement des organismes unicellulaires. Et qui s'apparentent en fait à des plantes. Donc en fait, comme les plantes terrestres, elles sont capables de faire la photosynthèse. Donc en fait, elles vont consommer du CO2 atmosphérique et vont pouvoir former de la matière organique à partir de ça. Et puis produire de l'oxygène.
Elles respirent directement le CO2 de l'air. Elles ne respirent pas du CO2 qui est dilué dans l'eau.
Les deux. Elles peuvent faire les deux. Celles qui sont à l'interface entre la mer et l'océan peuvent, entre la mer et l'air peuvent le faire, oui.
Et ce sont toujours des végétaux. Enfin, ça peut pas être, par exemple, des champignons.
Alors,
c'est ça, en fait.
Il y a d'autres aussi. Il y en a qui sont apparentés à des bactéries, donc on appelle les cyanobactéries, qui sont aussi capables de faire la photosynthèse et qui vont produire de l'oxygène comme ça.
Ah oui, parce que cyanobactéries, c'est pas, en fait, c'est pas stricto sensu des microalgues, c'est ça.
C'est ça. C'est un petit peu plus compliqué que ça.
Et alors la vôtre, présentez-nous la vôtre, donc Ostreopsis,
j'ai réussi. Tout à fait, oui.
Qu'est-ce que c'est?
Un peu compliqué à prononcer. Ouais. Ostreopsis, ben en fait c'est un dinoflagellé, donc c'est une sorte de microalgue qui possède des flagelles. Et donc c'est le genre Ostreopsis, il existe plusieurs espèces. Et en fait cette microalgue-là, elle a la particularité d'être benthique, donc en fait elle se développe sur les fonds des océans. Alors pas forcément au fond au sens profond. Mais au sens, voilà, sur le benthos, c'est ce qu'on appelle, donc ça va être des substrats, souvent des macro-algues, donc qui elles sont grandes, ou alors des rochers. Et on la trouve dans les zones côtières un peu abritées, peu profondes. Et en fait, cette algue-là, elle est toxique ou plutôt nuisible, en fait. Donc elle peut produire, certaines espèces peuvent produire des toxines, et elles peuvent avoir un impact négatif sur l'écosystème et aussi sur la santé humaine.
Et alors, vous disiez qu'elle avait des flagelles, enfin, est-ce que vous pouvez nous la décrire
oui,
déjà?
Donc en fait, elle ressemble elle a une forme de goutte d'eau, en fait, comme entre la goutte d'eau et puis la pistache. Et donc en fait, elle mesure à peu près une cinquantaine de micromètres, donc ça correspond à l'épaisseur d'un cheveu humain.
Elle est moyenne, on va dire, c'est ça?
C'est ça. Mmh. Et voilà.
Et ces flagelles, c'est pour avancer?
C'est ça, c'est pour se déplacer un petit peu. Donc en fait, comme c'est du plancton, c'est-à-dire que c'est pas capable d'échapper au courant. Ça peut pas se déplacer activement sur de longues distances. Par contre, ça peut un petit peu se déplacer au niveau de leur propre environnement, de leur milieu environnant en fait.
Et c'est une seule cellule aussi, ou
c'est
il y a
ça,
plusieurs?
Unicellulaire, oui.
Ah oui.
Ouais. Alors elles ont aussi la particularité de former du mucus, qui est une matrice mucilagineuse qui va être un peu collante, surtout pour se coller sur le fond. Et en fait, lorsqu'elles se développent, elles vont s'agglutiner tout ensemble et former des gros amas de cellules.
Des sortes de blobs.
C'est ça, ça ne ressemble même pas à ça.
D'accord. Et elles se fixent, elles ont besoin des autres végétaux pour se fixer. Enfin, elles ont un côté parasite ou pas
Alors pas forcément parasite, on va avoir des... pas forcément la symbiose non plus, mais en fait, voilà, elles vont se développer sur la surface de ce qu'on appelle macro-algues, donc des algues qu'on peut voir à l'œil nu, qui sont relativement grandes. et surtout sur les, enfin principalement sur des macro-algues qui sont ramifiées avec des petites branches pour leur permettre de s'accrocher dessus. Et en fait, simplement, elles vont se fixer sur ces substrats et se développer. C'est la particularité des micro-algues benthiques en général.
Et ce sont des cellules à noyaux. Oui, c'est ça.
Assez
complexe quand même.
Assez complexe, oui.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans?
Dedans, il y a plein de choses. Comme une cellule, en fait, vous prenez une cellule humaine, c'est un petit peu différent parce que c'est de l'animal. Mais vous prenez une cellule de plante, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et ça, simplement, vous allez avoir qu'une seule cellule au lieu d'un amas de cellules qui sont différenciées. Là, on a un organisme qui est représenté par une seule cellule.
Et toutes les ostréopsis se ressemblent ou la vôtre est spéciale?
Alors, au niveau physique, elles sont très, très similaires. Alors, il y en a qui vont être certaines plus grosses que d'autres. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles ont une ce qu'on appelle une teck, en fait. C'est une sorte de carapace, de plaque qui est assez caractéristique selon l'espèce. Et en fait, elles ont différentes plaques sur ces, qui sont agencées. Et jusqu'à très longtemps, enfin, jusqu'à pas longtemps, pardon, on essaie de différencier les espèces en fonction de ces plaques-là. Et en fait, on s'est aperçu que parfois, des espèces génétiquement étaient différentes, et pourtant, elles avaient des caractères morphologiques très, très similaires. Et donc, aujourd'hui, on essaye de passer plus à la génétique, de regarder vraiment le code ADN pour vraiment les différencier entre elles. Mais voilà, on peut avoir des espèces qui sont... Enfin, deux cellules de la même espèce relativement différentes, et ça peut...
Et si on devait leur donner une couleur, ça serait vert ou pas?
Une couleur, alors au microscope, elles sont un petit peu marron. C'est un peu brune, voilà. Un peu brunâtre, bon. La couleur qu'elles ont.
Et on les connaît depuis longtemps, on les a identifiés il y a longtemps, ces ostréopsis.
Oui, donc la première fois que l'organisme, enfin que le genre a été décrit, ça a été en 1901. 1902, dans le golfe de Siam. Et donc depuis, on les voit un petit peu partout au niveau mondial. Et puis, et par exemple, la première fois qu'on a décrit Ostréopsis en Méditerranée, ça a été en 72, à Villefranche, d'ailleurs. Et depuis, on l'observe de plus en plus. Donc on commence... Enfin, c'est une des micro-algues qui n'est pas forcément la plus connue, en tout cas sur les micro-algues toxiques. Donc on commence à récupérer les informations petit à petit.
Mais on peut la voir à l'œil nu, si elle a la taille d'un cheveu, en gros, les amas, on peut les voir à l'œil nu. Ça ressemble à quoi, un amas d'ostréopsis?
Tout à fait. Alors du coup, une cellule comme ça à l'œil nu, ça va être très compliqué à voir, mais ces amas-là, en effet, on peut les voir. Et ce qui se passe notamment lors des efflorescences, lorsqu'elles se développent de manière exponentielle et massive, on peut les voir s'agréger au niveau de la surface, en fait, à cause du mucus et à cause de l'oxygène qu'elles produisent. Ce mucus-là va piéger des bulles d'air. Et en fait, ça va faire remonter les amas en surface. On appelle ça des fleurs d'eau. Et ça ressemble un petit peu à de l'écume, vous savez, un petit peu marronâtre, un peu...
Une mousse douteuse.
Alors, voilà, pas vraiment une mousse, mais non. Une sorte de... Vous l'avez dit, blob, quelque chose d'un peu visqueux, un peu brunâtre en surface. Et ça, c'est assez toxique et ça peut représenter un risque pour l'homme.
Ah oui, alors leur toxicité, qu'est-ce qu'on en sait de cette toxicité? C'est quoi
Alors en fait, voilà. Alors certaines espèces, pas toutes, on a découvert la présence de toxines, donc elles peuvent produire des toxines. Donc certaines sont des analogues de la paillitoxine.
C'est quoi, par exemple, c'est quel autre animal qui est, ou plante plutôt?
Un animal, du coup, c'est un corail qui produit la paillitoxine, le palitoa, le corail qui s'appelle le palitoa, et qui est une des toxines les plus puissantes isolées dans le milieu marin, donc c'est assez fort. Et en fait, les ostréopsis ne produisent pas cette toxine-là, mais ce sont des analogues, donc des molécules chimiquement un petit peu différentes, mais qui ont un peu le même effet. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que... Alors du coup, elles ont un mode d'action un peu différent selon comment on se retrouve intoxiqué. C'est-à-dire qu'on peut avoir des irritations de la peau avec du contact direct au niveau de la peau et puis avec les cellules. Et comme je vous ai parlé de ces amas qu'on retrouve en surface, on peut avoir, à cause du vent, on peut avoir une aérosolisation de ces toxines-là qui peuvent être ensuite inhalées.
Ah ouais.
Les gens sur la plage. Ouais. Et puis il y a eu plusieurs épisodes toxiques.
Ah bon? Mais oui. Comment ça se passe? On se met à tousser? Qu'est-ce qui se passe quand on a à ingérer, inspiré des ostréopsis?
C'est un peu ça. On a des symptômes. On peut avoir des toux, des irritations des muqueuses, des voies respiratoires. On peut avoir aussi des petits œdèmes, des difficultés à respirer. Ça, c'est arrivé. On a aussi également un goût métallique dans la bouche. Vous savez, comme un petit goût de sang qui est particulier, qui est une des particularités de cette toxine-là. Et puis après, les contacts avec la peau, on a des irritations, puis on peut avoir aussi des problèmes des fièvres, des nausées, des choses comme ça.
Et si on les mangeait, entre guillemets, qu'est-ce que ça ferait?
Ben je, Bon, vous n'avez pas essayé? J'ai jamais essayé. Non. C'est pas l'envie qui m'a manqué niveau scientifique. Non, mais c'est, on aurait probablement des effets similaires, voire enfin un peu plus forts.
Et puis, et si les animaux, par exemple, admettons que ces algues soient mangées par un poisson que nous-mêmes allons ingérer, est-ce que la toxine subsiste ou...
Alors, oui, très bonne question. Alors, jusqu'à présent, on n'a jamais retrouvé de toxines dans les chairs des poissons. Alors, il y a d'autres microalgues comme Gamberdiscus qui provoquent la ciguatera, la maladie de la gratte dans les zones tropicales, où on a les toxines qui vont s'accumuler dans la chair, et du coup, si on mange le poisson, on peut être intoxiqué.
Et ça va gratter, c'est ça?
C'est un peu ça, de la gratte. Non, chez Ostreopsis, on n'a pas ça. Par contre, on a retrouvé des toxines simplement dans le tractus digestif, mais pas au niveau des chairs. Donc on peut manger un poisson qui a, par exemple, brouté des macro-algues avec Ostreopsis dessus, on ne devrait pas avoir de soucis. Mais sur tout ce qui est autre, ça peut être des crustacés. On est encore en train de regarder ça et de savoir si on peut ensuite être intoxiqué. C'est des choses qui sont étudiées.
Et donc ces ostéopsies, celles que vous suiviez en tout cas jusqu'à présent, c'était uniquement en Méditerranée pour l'instant, c'est ça? Ou il y en a déjà en Atlantique? Enfin, comment ça se passe?
Alors oui, en fait, depuis plusieurs dizaines d'années, en Méditerranée, c'est assez connu. Donc comme je vous l'ai dit, depuis les années 70, on sait qu'elle est présente en Méditerranée. Depuis le milieu des années 2000, on a eu des épisodes d'intoxication sur les côtes catalanes, aussi à Gênes, et puis sur les côtes algériennes. Donc des épisodes où on a eu plusieurs dizaines, voire parfois centaines de personnes hospitalisées.
Et on n'en meurt pas quand même? Enfin, ça va pas jusque-là?
On n'en meurt pas. Alors il n'y a eu aucun cas de mortalité liée à Ostreopsis dans le monde. Alors il y a un cas à Madagascar qui est un petit peu discutable là-dessus. Mais pour l'instant, pas de mort. Par contre, on a des hospitalisations. Et puis si on a des personnes fragiles, on peut avoir des complications. Mais voilà, donc voilà, depuis plusieurs dizaines d'années, c'est en Méditerranée que ça se passe. On la voit fleurir un petit peu partout.
Toujours près des côtes, hein, c'est son principe, quoi.
C'est ça, c'est une espèce côtière, c'est-à-dire que vous allez vous baigner, vous allez pouvoir la rencontrer. On la retrouve en général entre 1 et 3-4 mètres de fond.
Parce qu'il faut qu'elle y ait quand même un peu de lumière, je suppose, c'est ça.
C'est exactement ça.
D'accord.
Et voilà, pour finir ça, on commence à l'observer au niveau de la péninsule ibérique, donc en Atlantique.
Ça y est, elle a passé la porte.
Ouais, c'est ça, elle a passé le cap. Et puis depuis quelques années, début des années 2010, on a commencé à avoir des efflorescences au niveau du sud-est du golfe de Gascogne, donc au niveau de la frontière espagnole, enfin franco-espagnole.
Elle serait transportée de toute façon naturellement, elle proliférerait naturellement, c'est pas par exemple les coques de bateau qui la transporteraient?
Peut être un vecteur de transmission.
Bon, et alors vous l'avez étudié, est-ce que vous lui avez trouvé des prédateurs, enfin je sais pas, des brouteurs de...
C'est ça, non, tout à fait, on appelle ça des brouteurs, donc principalement on a tout ce qui est le zooplancton, donc en fait c'est la même composante du plancton que le phyto, sauf que c'est le côté animal. Donc généralement ce sont des petits crustacés ou des larves de poissons qui vont manger ces micro-algues-là. Et donc en fait eux, ils ne font pas la différence entre Ostreopsis ou d'autres micro-algues, ils vont brouter, simplement.
D'accord, et ça leur... Enfin, ils s'en portent pas plus mal, eux.
Alors si
quand même.
Alors certains, alors ceux, il y a des études qui ont été menées, et alors certains sont plus sensibles, notamment ceux qui ne sont pas forcément au contact de ces micro-algues-là, qui n'ont pas forcément développé des compétences pour soit éliminer les toxines, soit y être résistant. Par contre, on a des espèces qui peuvent en ingérer des quantités assez fortes sans avoir forcément de problème par la suite.
Ah oui, par exemple, sur qui peut-on compter
pour... Des espèces de... Il y a des copépodes, par exemple.
C'est quoi, des copépodes?
C'est le piège. Ce sont des petits crustacés. C'est...
Ah oui.
C'est tout petit, c'est des genres de mini-crevettes.
D'accord, voilà. Ah oui.
Certaines espèces qui sont capables de ne pas forcément être dérangées par Ostreopsis ou par d'autres micro-algues toxiques.
Et elles n'ont pas besoin d'être grosses pour en manger beaucoup, en fait, quoi. C'est le principe.
C'est ça. Bon, après, ouais, il faudrait quand même beaucoup de copépodes pour pouvoir tout brouter.
Donc il y a des efflorescences. Alors, quand on dit efflorescence, on a peut-être du mal à se rendre compte. Enfin, je sais pas, est-ce que ça va très vite? Enfin, c'est un phénomène qui est vraiment explosif ou c'est progressif? Comment ça se passe?
C'est ça, tout à fait. C'est explosif, soudain, c'est exponentiel. On appelle ça comme ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour se développer, Ostreopsis, principalement, utilise une reproduction de type asexué. Donc, en fait, une cellule va se diviser en deux. Donc, on a une cellule mère qui se divise en deux.
Puis... Parthénogenèse, comme on dit, c'est ça? Non,
c'est de la division cellulaire.
Ah ouais, tout bêtement. Ouais, c'est une cellule toute seule, c'est vrai. pour qu'on s'ennuie.
Et en fait, à partir d'une cellule, elles peuvent se diviser une fois par deux, puis ensuite par deux, et puis de manière exponentielle, ça, on peut avoir une population qui se développe massivement, selon D'accord. les conditions. Et donc, si on a des conditions qui sont stables, qui sont favorables et propices au développement, en quelques semaines, on peut passer à vraiment des concentrations très fortes.
Et alors, c'est quoi ces conditions ?
Alors, pour Ostréopsis, principalement, ce qu'on a mis... Alors, ça dépend des zones, ça dépend des espèces aussi. Mais en général, c'est des eaux calmes, abritées, une température assez forte. Donc, surtout en Méditerranée, au niveau des côtes, au niveau de Villefranche, sur les côtes françaises, on a ces conditions-là. Donc, de la lumière, du chaud, et puis ça part.
Et s'il y a une tempête, ça détruit les... Elles n'aiment pas trop, c'est
Alors,
ça ?
Alors, elles n'aiment pas trop tout ce qui est hydrodynamisme. Et puis en plus, nous, en fait, quand on surveille les abondances de ces micro-algues-là, on va prélever des macro-algues. Et en fait, ce qui peut se passer après une tempête, par exemple, on peut avoir toutes les cellules qui sont remises en suspension et qui peuvent se faire emmener en fait un peu au loin, et puis on peut avoir un bloom qui peut cesser directement à cause d'un épisode de tempête, par exemple.
Ouais. Ceci dit, il va peut-être se reproduire ailleurs, du coup.
On peut déplacer des populations comme ça, oui. Uh-huh, et puis si, quelques semaines après, on se retrouve avec un temps qui est clément et qui refavorise, on peut encore avoir une efflorescence par la suite.
Et en termes de support, elle mm-hmm. se fixe à un peu n'importe quoi
Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en évidence. Donc c'est principalement sur des substrats de type macro-algues, donc des algues qu'on voit. Donc c'est des substrats biotiques. Donc on pense qu'il y a des interactions de type biotique. Ça peut être aussi avec les communautés bactériennes qui sont à la surface des macro-algues.
Ah ouais, elles se fixent sur les bactéries qui sont sur les algues.
Voilà, en fait, vous allez avoir l'algue qui se développe. On a ce qu'on appelle un biofilm bactérien qui va se développer dessus. Et puis, Ostréopsis qui va venir s'accrocher. Et puis, on ne sait pas trop encore ce qui se passe. Mais on sait qu'elle préfère, par exemple, certains types de macro-algues.
Ouais, c'est ça.
D'autres, voilà.
Lesquels, par exemple ? Enfin, y en a qui sont connus, des algues.
En Méditerranée, on a des dictyotales. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non, j'avoue.
Voilà, ici, surtout sur les côtes bretonnes, et puis en Atlantique, on a des grandes macro-algues létales, des types laminaires, vous savez, très grandes. Ça, on pense qu'Ostréopsis n'aime pas forcément ces macro-algues-là. Par contre, elles préfèrent des plus petites macro-algues qui sont ramifiées avec plein de petites branches.
Ah
ça
oui.
leur permet de mieux s'accrocher.
Ah oui. Et d'autres plantes du style zostère et tout, ça les intéresserait pas ? Enfin, on les a déjà vues se fixer dessus ou...
Pas vraiment. Alors, elles peuvent se fixer, mais ce n'est pas forcément ce qu'elles préfèrent. Comme en Méditerranée, on a la Posidonie aussi.
Ah oui, la Posidonie,
voilà,
ouais.
On ne trouve pas forcément beaucoup de d'Ostréopsis dessus.
Et pas directement sur les rochers ?
On peut retrouver des tapis de... Alors surtout au niveau des... Lorsqu'on a des efflorescences, on peut voir se développer des tapis d'Ostréopsis sur des rochers. Mais elles préfèrent quand même les macro-algues.
Et alors vous les suiviez, enfin vous les avez suivis longtemps Combien de temps
Alors moi ce que j'ai fait, donc j'ai fait un petit peu plein de choses. En fait ce qu'on a commencé à faire depuis 2017, donc c'est pas que moi, depuis 2007 pardon, à Monaco, on a mis en place un suivi saisonnier. Donc en fait chaque été depuis 2007, on observe des blooms et puis on est allé récupérer des macro-algues pour compter l'abondance toutes les semaines.
Alors racontez-nous, parce que ça c'est le côté sympa quand même du métier de chercheur, là. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer ?
Les prélèvements, il suffit simplement d'aller à l'eau. Enfin, et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever des macro-algues où Ostréopsis est présente. Donc en fait avec une petite bouteille, on vient par-dessus, on récupère la macro-algue, on la décroche, on récupère l'eau tout autour, et puis ensuite on va compter au microscope, on va compter le nombre de cellules qu'on a par poids de macro-algues frais. Et on obtient comme ça une abondance en fait de micro-algues par poids de macro-algues.
Donc ça, ces prélèvements, c'est régulier
C'est ça. Donc nous, à Monaco, on les faisait toutes les semaines entre juin et fin août. Et pour en fait observer vraiment le développement du bloom sur tout un été. Voilà.
Et qu'est-ce que vous aviez constaté alors ?
Donc en fait, ce qu'on a constaté, c'est que... Donc on avait jusqu'à... Aujourd'hui, on a plus de 13 années de bloom. Mais en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que chaque année, le bloom est un peu différent. On n'a pas forcément un schéma qui est similaire. Alors c'est un phénomène qui est récurrent, qui se produit toujours au niveau de l'été, en tout cas dans cette zone-là. Mais on a des blooms qui vont être très intenses, d'autres qui vont être pas forcément intenses, mais plus longs dans la durée. D'autres avec parfois deux pics de bloom. C'est ce qu'on appelle la phénologie. En fait, on a vraiment une différence de développement au niveau, au niveau de ces critères phénologiques. En fait, voilà, on a des booms qui vont arriver plus tôt dans l'année, d'autres plus tard. C'est un petit peu, ça varie. Et du coup, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'était de relier ça à des paramètres environnementaux, justement.
Voilà. Alors, lesquels, par exemple ?
Alors, notamment la température qui nous intéresse et qui était le sujet de ma thèse.
Température de l'eau.
Température de l'eau, tout à fait. Ouais. Et ce qu'on a prouvé, ce qu'on est en train de mettre en évidence, c'est que la température a vraiment un effet sur la phénologie du bloom, et particulièrement sur la précocité.
Ah oui.
Et on s'est aperçu que au plus on avait des températures qui étaient chaudes et favorables, au plus on avait un bloom qui était précoce dans l'année.
Et il dure pas plus longtemps pour autant.
Voilà, sur la durée, sur l'intensité, on n'a pas forcément de relation qui met en évidence une relation entre température et ces paramètres-là.
Quels étaient les autres paramètres éventuels que vous n'avez pas forcément étudiés, mais que vos collègues ont étudiés
Oui. Alors il y a plein, niveau hydroclimatique, on a plein de choses. On a l'hydrodynamisme, on a les pluies, la salinité, le pH, les nutriments également qui sont nécessaires aux microalgues. Donc nous, on avait quand même collecté toutes ces données-là. On a fait des analyses un peu statistiques pour essayer de comprendre ce qui agissait le plus sur le développement. Et jusqu'à présent, c'est vraiment la température qui agit.
D'accord.
Le plus.
Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous regardez pourquoi il y a des blooms, mais est-ce que finalement vous pourriez pas en venir à regarder les blooms, enfin à faire l'inverse, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire suivre les blooms et
essayer de voir quels paramètres les plus importants.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est un peu ça. En fait, on part de nos observations, on se dit voilà, on observe un bloom qui se développe de cette manière-là. On a tel paramètre qui varie de cette manière-là, puis on essaie de faire correspondre un petit peu ça.
Non,
c'est, en fait, c'est surtout pour faire potentiellement la prédiction.
Oui, c'est ça, voilà. C'est ce que je voulais dire.
C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas arrêter un bloom, on ne peut pas lâcher des copépodes qui vont tout router, on peut pas agir, on parle de mitigation, on ne peut pas agir sur ces microalgues-là. Et puis bon, elles sont toxiques, certes, mais elles sont quand même bénéfiques aussi pour l'écosystème et pour le bon fonctionnement de la chaîne trophique et plein d'autres choses.
Elles ont leur raison d'être, quoi.
Exactement.
Parce qu'elles nourrissent, c'est ça, quoi.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. On ne va pas les embêter parce qu'elles embêtent les touristes l'été.
Ouais, on ne va pas mettre des pesticides sur...
C'est ça.
On ne va pas les pesticider.
C'est ça, mais ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de la prévention, et puis essayer tout simplement de mieux comprendre ça pour pouvoir mettre en place des mesures. Par exemple, fermer des plages quand on sait qu'il y a une efflorescence. Des choses comme ça.
Ouais, ça serait plus cet ordre de.
Plus de la prévention, quoi. Et de la surveillance. Donc en France, il faut savoir qu'il y a le REFI, qui est un réseau de surveillance à l'échelle de tout le pays, où ils font des prélèvements sur toute la côte, et ils essaient de voir quelle espèce potentiellement toxique est présente. Alors ça va d'Ostréopsis, mais on a tout un tas d'autres espèces.
Oui, c'est ça. Bah, vous pouvez peut-être m'en dire un mot, d'ailleurs, c'est parce qu'on a l'impression qu'il y a des micro-algues toxiques, il en apparaît toutes les semaines, là.
Oui, ah, il y en a beaucoup. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'ont pas forcément le même mode d'action. Donc vous avez des... voilà, je reprends l'exemple d'une autre... il y a Alexandrium, par exemple, qui produit des toxines qu'on connaît et qui vont infecter... qui vont pouvoir intoxiquer les gens à travers les huîtres. Voilà, si vous consommez une huître ou d'autres crustacés qui ont des toxines produites par Alexandrium, vous allez tomber malade. Et on a ça un peu partout. Puis ce qu'on a également, c'est aussi, donc, je ne sais pas, vous avez dû entendre parler des marées rouges.
Voilà,
c'est de l'eau qui va changer de couleur, typiquement. Et en fait, c'est dû à la prolifération de micro-algues qui sont colorées, qui vont... Alors, la couleur n'a pas vraiment d'effet, mais ce qui va se passer au niveau d'une efflorescence, c'est qu'on... En fait, une fois que toutes nos micro-algues qui sont développées, au bout d'un moment, elles vont mourir, en fait, elles vont se faire consommer par des bactéries. Et lorsque les bactéries vont consommer toutes ces micro-algues-là, elles vont consommer énormément d'oxygène. Et on a ce qu'on appelle des épisodes d'hypoxie, donc on a une baisse du niveau d'oxygène dans l'eau, voire d'anoxie totale, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'oxygène. Et là, les poissons et les autres organismes, ils n'apprécient pas forcément.
C'est ça. Et ça, des blooms, on en observe, enfin, quelle que soit la micro-algue, on en observe de plus en plus dans toutes les mers du globe ?
C'est ça, c'est un peu le constat qui se fait de plus en plus. Alors, il faut prendre un peu ça avec des pincettes, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis des dizaines d'années, nos méthodes d'analyse se sont améliorées. On a un accès un peu plus facile à tout ce qui est surveillance, monitoring. Donc, c'est un peu logique qu'on voit de plus en plus d'épisodes de ce type-là. Alors maintenant, ce qu'on essaie de mettre en évidence, vraiment, c'est de savoir si c'est lié, par exemple, au changement climatique, au réchauffement des océans, ou si simplement lié à un effort de surveillance un peu plus intense.
Ouais. Ou d'autres cycles, peut-être, je ne sais pas, genre Niño, Niña, peut-être.
Tout à fait, ça peut affecter des blooms à échelle... sur une zone géographique, ça peut.
Oui, parce que j'imagine que vous n'avez pas des reports des rapports sur les blooms qui datent de la préhistoire, quoi. Enfin, ça, c'est les données sont trop récentes, c'est ça.
C'est ça. On les attend encore.
Bien. Donc le monde de la microalgue, bon ben, vous nous avez permis de découvrir en tout cas une partie. Vous allez continuer dans ce domaine, vous pensez, des microalgues?
Oui. Oui. Ouais. C'est mon dada, on va dire. C'est pas beaucoup de gens. Enfin, ça intéresse pas beaucoup de monde. Enfin, en tout cas, de manière générale, c'est pas forcément le plus connu au niveau des océans, mais c'est un compartiment qui est très 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 important. C'est premier maillon de la chaîne trophique. Ça représente 50% de l'oxygène qu'on respire.
Elles produisent ces microalgues.
Ces microalgues, de manière générale, pas Austréopsis, mais enfin toutes les microalgues au niveau mondial, c'est le deuxième poumon de la planète. On n'en parle pas beaucoup, mais et ça permet aussi de réguler le CO2 atmosphérique. C'est très très important.
Elles méritent qu'on s'y intéresse.
Exactement.
Bon ben merci beaucoup, Kevin.
Je vous en prie. Merci à vous.
Et on retrouvera donc bien sûr cette émission, cet entretien, on pourra le réécouter sur le site internet de Radio Évasion. Et on retrouvera une autre scientifique de l'IFREMER dans un mois, ce sera le premier mardi du mois.